Corps, sentiments et facultés mentales. L'enfant dont le corps est libéré de tensions apprend naturellement et efficacement. Les tensions musculaires sont des somatisations d'une condition de blocage au niveau mental et plus encore dans l'émotionnel. Elles trahissent des tensions psychiques et des complexes psychologiques. C'est pourquoi l'enfant profite grandement de massages et de sports doux tels que la natation ou le ping-pong. Par contre, les sports durs tels que le football, la boxe ou le tennis mènent à la crispation de l'ensemble musculaire du corps de l'enfant et à un retardement mental par la suite. Massage, natation et sauna sont des moyens idéaux pour adoucir le corps de l'enfant ou plutôt pour sa protection contre le durcissement. De par la nature, le corps de l'enfant est idéalement doux et flexible et se durcit seulement au cours des années suite aux frustrations et sentiments négatifs qui deviennent blocages musculaires et ensuite maladies psychosomatiques. Le corps et les sentiments se trouvent dans une relation de parenté. Corps doux et souple, sentiments doux et souples. Corps dur et bloqué, sentiment dur et bloqué. L'enfant doux et aimable possède un corps doux et souple et ses muscles sont relaxés et flexibles. L'enfant haineux et renfermé vit dans un corps durci de tensions musculaires. Il est donc indispensable, si l'on veut aider l'enfant à maintenir sa souplesse et son amabilité naturelle, de lui donner l'occasion de se relaxer souvent, d'une part par moyen du sommeil suffisant et profond et d'autre part par le massage, la sauna, le bain chaud et par la natation et le jeu en plein air. La nudité, elle aussi, joue un rôle important dans la dissolution de tensions musculaires. Elle aussi représente un partage. Être nu à plusieurs veut dire qu'on a confiance l'un en l'autre, qu'on se présente aux autres sans angoisse et qu'on expose donc sa vulnérabilité. C'est un signe d'absence d'armure et d'ouverture. La nudité dans les communautés des années 60 n'était donc pas un caprice. Elle se fondait sur une connaissance psychologiquement saine qui a d'ailleurs toujours existé dans la philosophie nordique de la sauna et qui se trouve encore chez les peuples naturels. Le massage se trouve dans la sagesse de beaucoup de peuples, surtout en Asie et là, surtout en Inde. D'ailleurs, dans la plupart des sports, même occidentaux, la souplesse du corps est une condition préalable pour la maîtrise de la technique sportive et, de même, pour le succès et la confiance en soi. Le sport, quand on le comprend de la juste façon, nous enseigne d'être en harmonie avec notre corps et de bien le traiter afin qu'il nous serve librement et volontairement. Aussi, la nudité est-elle cultivée dans le mouvement du nudisme moderne qui représente, consciemment ou non, la suite d'une vieille tradition de sagesse. Le jeu des sentiments différents que possède l'homme ne peut s'exprimer que dans un corps souple et ouvert. L'éducation traditionnelle qui crispe le corps réprime en même temps la libre expression des sentiments. C'est surtout les sentiments les plus forts qui en sont ainsi supprimés, tels que l'extase de joie, la haine, la fureur, l'extase sexuelle et la folie momentanée très fréquente chez l'enfant libre. La répression des sentiments mène à un déséquilibre entre le corps et l'âme chez l'enfant et le rend facilement excité, nerveux d'un côté et sujet à la faiblesse de concentration de l'autre. Ces symptômes sont souvent accompagnés de difficultés de sommeil, suite du défaut de relaxation corporelle et d'épanouissement psychique. La plupart des enfants civilisés en souffrent, jusqu'au point que certains d'entre eux sont amenés en psychothérapie ou suivent des traitements chez les psychologues d'école s'ils ne sont pas hospitalisés dans des institutions psychiatriques. On parle alors de dépression et dans les cas graves de schizophrénie. Les professionnels qui voient le monde sous le point de vue de leur science spécifique ne sont guère aptes à comprendre ce qui manque vraiment l'enfant, ce qu'il cherche. Car pour ressentir cela, il faut être innocent, libre de théories scientifiques et autres, ouvert simplement à l'écoute de l'enfant. Pour comprendre l'enfant, il faut l'aimer, et aucune science n'est nécessaire pour y arriver. Les psychothérapeutes alternatives, tels que Ronald David Lane, en Angleterre, y sont arrivés, parfois après un long enseignement volontairement menant à l'abandon de toute théorie psychiatrique ou autre, seulement par étant au service de l'enfance et par aimant l'enfant en dehors des devoirs professionnels. Chez l'enfant psychiquement malade, on peut toujours constater un blocage des sentiments ou de l'expression des sentiments. Il semble que la santé mentale se caractérise en premier lieu par la faculté d'exprimer ses sentiments de façon plus ou moins libre, adaptée à la situation actuelle et à l'environnement. Cette faculté d'adaptation, qui est une faculté mentale, nous rend capables de changer notre environnement ou notre façon de vivre si notre santé mentale et psychique l'exige. Chez l'enfant malade psychiquement, il y a soit excès d'adaptation ou excès de révolte. Le rôle de l'éducateur consiste à aider l'enfant de s'exprimer, d'extérioriser ses sentiments d'une façon qui ne lui met pas en danger, ni les autres qui l'entourent, et surtout de comprendre ses sentiments à lui ou à elle, sa vie intérieure, sentimentale et mentale. L'intellect ne peut se développer sainement chez l'enfant que si la vie sentimentale est en équilibre et libre de blocage et d'angoisse. La vie mentale ne peut être séparée chez l'homme de la vie sentimentale. Il est une grande erreur de l'éducation moderne de surcharger l'enfant d'informations et de l'entraîner de façon exclusivement intellectuelle. Les robots qui en sortiront seront nos leaders de guerre et de catastrophe dans un proche avenir. L'éducation des sentiments est clairement supérieure à l'éducation du mental. Elle est d'ailleurs pour l'éducateur un plus grand défi, plus difficile à mettre en pratique que la transmission de savoirs et de techniques mentaux. Car les sentiments entraînent facilement des projections qui faussent la vue sur l'enfant. Seule l'intégrité personnelle de l'éducateur et un travail constant sur le niveau intérieur et la formation graduelle d'une attention au flux bio-énergétique, que j'ai appelé Emonic Consciousness, peut aider dans le processus de graduellement se vider de projection. L'enfant équilibré dans son corps et dans ses sentiments sera aussi mentalement brillant. D'autre part, un enfant rendu robot mental parfait par entraînement restera toujours un torse sentimental, un handicapé dans sa vie intime et un psychopathe sexuel. Il n'y a donc pas d'alternative. L'éducation doit commencer par le corps, passer par les sentiments et aboutir à la formation du mental, et non pas vice-versa.